L'excellence du rapport entre Dieu et Israël, c'est le tétragramme, le nom de quatre lettres, Hachem, n'est-ce pas, qui est composé de quatre lettres, Yod, Ké, Vav, Ké. Il s'agit d'une structure, vous avez quatre lettres, mais le Yod, d'une part, je ne l'écris pas au tableau parce que vous savez qu'on n'a pas le droit d'effacer le nom de Dieu, et par conséquent, je ne vais pas l'écrire avec ces quatre lettres, tel qu'il est habituellement. Donc vous savez que la première est un Yod, la deuxième est un Hé, le troisième est un Va, le troisième est un Ré. C'est donc une structure qui serait A, B, C, B, puisque vous remarquerez que la dernière lettre du nom de Dieu, c'est la même que la deuxième, puisque nous avons deux fois la lettre Ré, Yod, Ré, Va, Ré, n'est-ce pas ? Je l'ai écrit à la française. Donc nous avons une structure d'un nom divin qui, très curieusement, comporte quatre éléments, mais dont trois seulement sont originaux. C'est-à-dire que nous avons trois lettres, les trois premières qui sont originales, et la quatrième est la répétition de la deuxième. Bon, je ne peux pas, j'ai fait un cours il y a deux ans de trois heures sur ce problème, je ne peux pas, pas y revenir, nous sommes déjà très en retard. Simplement, ce que je voulais dire très rapidement, c'est que les permutations, d'abord ces quatre, nous avons donc ici trois lettres qui en fait sont quatre, puisque nous avons quatre lettres, mais dont trois seulement sont originales. Et la 3 et 4, vous avez 3 fois 4 fait 12, et 3 plus 4 font 7. En fait, ça correspond tout à fait à la structure de l'espace. Dans un espace, en effet, quand vous prenez l'espace tel qu'il est par rapport à l'échelle humaine, un homme, il a une partie antérieure et une partie postérieure, c'est-à-dire ça correspond à l'avant et à l'arrière, il a un bras droit et un bras gauche, et ça correspond effectivement aux 4 points cardinaux. Mais, tradition juive, l'homme, par opposition aux animaux, est celui qui se tient debout. L'homme, c'est celui qui peut regarder le ciel. Nous avons étudié cela d'ailleurs dans un séminaire avec Rav Ashkenazi et Pierre Simsovic l'année dernière au mois de juin. Donc, l'homme se tient debout, regarde le ciel, c'est qu'il y a aussi le haut et le bas. Et lorsqu'on parle des points cardinaux de la tradition juive, ils ne sont pas au nombre de quatre, qui seraient uniquement une horizontalité, mais la possibilité de monter ou descendre, pas moralement et physiquement parlant. De monter, de s'élever et de s'abaisser. Par conséquent, les points cardinaux sont de ce nombre de 6. Effectivement, la structure normale est donc représentée par un cube, la structure de base. Et ce cube possède effectivement 6 faces qui correspondent à ce que j'ai décrit sur les points cardinaux. Il y a 12, vous pouvez voir, 12 arêtes. Alors, en fait, le Magen David, l'étoile de David, se compose de 6 points qui détourent. Mais tant que nous sommes dans le 6, eh bien, ce n'est pas complet. Il manque un centre. Il manque un centre pour donner son sens au 6. Et c'est la notion du 7e. Vous savez, donc, tout le problème, et le Maharal, dans toute son œuvre, insiste énormément, c'est que le monde ne peut avoir de sens que s'il est défini par rapport à un centre. Centre qui lui sert de référence. Donc 6 plus le centre, ça fait 7. Donc la structure du monde est un monde à 7 dimensions. Le centre et les 6 points d'où l'on peut aller en s'éloignant du centre. Chacune ayant sa spécificité. Il y a une multitude de textes du Maharal qui expliquent des enseignements de la Gemara ou des versets de chaque fois qu'il y a 7 choses citées par rapport aux dimensions. Je vous renvoie en particulier, pour ceux que ça intéresse, à la première et à la troisième préface des trois préfaces du Gevurot Hashem. Il explique les membres de texte de la Gemara de toute façon. Et donc, ça vous également, le temps est structuré basiquement sur 7. Vous avez les 6 jours de la création et Shabbat. Et vous savez qu'il y a un midrash célèbre qui nous explique que chaque jour correspond son batzugo, son correspondant. Le premier jour est lié au quatrième, le deuxième au cinquième, le troisième au sixième, et le septième jour reste tout seul. Alors à ce moment-là, lui dit non, toi tu es relié à Israël. Israël, c'est-à-dire qui est vu comme le centre spatial du monde, est également relié à ce qui est le centre du temps. Par conséquent, dans la structure, je ne vais pas le temps de développer, je vois que les gens y sont, ils ont beaucoup choses à faire, encore, dans la structure du monde tel qu'il est, la structure basique est de la diagonale est 7. Et par conséquent, 7 jours représentent la perfection de ce monde-ci. Nous verrons, si nous avons le temps, que les temps messianiques vont être définis au-dessus du monde de l'histoire qui sera défini par 8, le monde à venir par 10. Mais déjà, dans ce monde-ci, la plénitude se réalise par le chiffre 7. Et c'est pour la raison pour laquelle, lorsqu'on veut désigner la joie complète, la réalisation totale, qui est celle du mariage, dans laquelle un homme et une femme vont réaliser la plénitude, eh bien, c'est pendant 7 jours qui correspondent à la structure la plus parfaite possible de ce monde-ci. Est-ce que c'est... Je sais que c'est très... J'ai dit beaucoup de choses très denses en peu de temps. Je vous prie de m'en excuser, mais est-ce que l'idée est claire? Est-ce que vous avez compris le thème, en tout cas? C'est pourquoi... puisque le verset d'Isaïe, c'est Isaïe qui le dit, n'est-ce pas? Ce n'est pas la Gemara, ce n'est pas... À plus forte raison, ce n'est pas moi. C'est Isaïe qui dit, de même qu'il y a la joie du fiancé et de sa fiancée, Dieu se réjouira avec toi. C'est-à-dire, ce qui est la plénitude de la réalisation de l'homme, mais qu'un homme ne réalise dans sa vie privée que très peu, eh bien, cela se fera dans la même union. Vous savez que l'histoire juive est vue aussi comme une union entre Dieu et Israël, qui est comparée à l'union de l'homme et de la femme. Vous savez par exemple que pour la Kabbalah, Pessah représente les fiançailles entre Dieu et Israël. Shavuot représente le mariage entre Dieu et Israël, avec l'acte de mariage, le contrat, qui sont les deux tables de la loi. Et Sukkot représente la vie commune, on s'installe ensemble, on s'installe, vous savez qu'on dort en principe dans la Sukkah, pendant les jours de la Sukkah, on s'installe pour la vie commune avec Dieu, Israël avec Dieu, n'est-ce pas, les trois étapes du mariage, de l'union entre Dieu et Israël. Et bien par conséquent, il faudra au moins que se réalise cette plénitude de l'humanité entière pendant 7 jours, c'est-à-dire 7 jours de Dieu, donc 7000 ans. Est-ce que, c'est en tout cas, le thème est clair? Vous voyez la cohérence de la demande d'Avimi. Voyez-vous, elle est très, comment dirais-je, cohérente, et je veux dire, elle n'est pas exigeante à la limite. Il veut la simcha vraie, une plénitude vraie, puisque nous avons un verset qui nous le promet, donc il faut que ça soit au moins 7000 ans. C'est clair? Il nous reste à voir rapidement, combien de temps me donnez-vous encore? Il est 8h. Il n'y a pas de conférence ce soir, combien de temps puis-je encore? Pour que je sache si je vais très vite ou... Une demi-heure. Ça vous va, une demi-heure? Pas d'objection. Bon, alors je vais essayer de calculer sur une demi-heure. Je voulais quand même parler du soleil et de la lune. Hein. C'est un rendez-vous que vous attendez tous. Hein. Ce n'est pas le soleil qui rend avec la lune, encore que. Ça aussi, Isaïe le dit. Moi, je ne vous parlerai pas de ça ce soir, mais ça ne fait rien. Je voudrais quand même essayer d'y arriver, même rapidement. Donc, très rapidement, pour les deux derniers, vous allez voir que ce n'est pas très difficile, malgré les apparences. Donc, se termine la troisième baraïssa, se termine ici. Mais nous avons maintenant l'enseignement de deux amoraïs babyloniens. Rabbi Yehuda, en nom de Shmuel, et je vous répète, ce sont des grands parmi les grands. Hein. Donc, ce n'est pas des rabbins qui s'amusent, encore une fois, à jouer à des petits jeux comme ça. Hein. Vous voyez qu'on est dans un problème sérieux. Alors, Rabbi Yehuda, au nom de Shmuel, Rabbi Yehuda, c'est l'élève de Shmuel. Hein. Vous le trouvez dans le tableau en français en bas, je vous ai marqué exactement. Hein. Et Rosh Yeshiva de Pompédita, hein. Pas Rosh Yeshiva, je ne sais pas moi, d'une soi-disant séminaire américain. Dans la banlieue de Cincinnati. Bon, Rosh Yeshiva de Pompédita, là où le Talmud se met en forme écrite. Le Talmud oral se met en forme écrite. Donc, Rabbi Yehuda dit au nom Shmuel, Mosa Mashiach, je lis, Kimiyom Shenivro Olam Vanarshav. Autant que depuis que la création du monde jusqu'à maintenant. Et maintenant, bon, ça tous les commentaires expliquent, ça veut dire jusqu'à la vie Mashiach. Parce qu'on explique. Jusqu'à maintenant, c'est-à-dire jusqu'au moment où il arrivera, comme on espère toujours que ce sera aujourd'hui, donc c'est une tournure tout à fait classique, il faut dire. Donc ça veut dire qu'il faut au moins que l'époque du Messie dure au moins autant que la période qui l'a précédée, depuis la création du monde. Et il a un verset pour cela, il a un verset que beaucoup d'entre vous connaissent d'ailleurs, je pense. Beaucoup d'entre vous connaissent, parce que c'est un verset qui se trouve à la fin du deuxième. La deuxième partie du Shema. Alors ceux d'entre vous qui disent le Shema le connaissent. Je vais vous lire en entier parce qu'il n'y a que les deux derniers mots. Dans les promesses qui sont faites, donc la promesse faite à Israël, on nous dit qu'il faut accomplir ceci, qu'il faut réciter le Shema, qu'il faut mettre des mezouzot, etc. Et ça se termine. Chapitre 11, verset 21. Le man yirbu yomechem yomevenechem Alwa Domo, Ashanishba Hashem Lavosechem Loses Lohem, et les deux mots cités, Kimei Hashomayim Alorems. C'est les quatre mots cités à la fin par notre Rav. Alors je vous traduis tout le verset, afin que se multiplient tes jours et les jours de tes fils sur la terre que Dieu a juré à vos pères de leur donner comme les jours des cieux sur la terre. L'explication, elle est relativement simple, je vais aller vite. On nous dit que les Hébreux vont jouir de la vie véritable afin qu'augmente, n'est-ce pas, que soient nombreux vos jours et les jours de vos enfants sur la terre, qu'ils soient nombreux ces jours. Or, les Hébreux ne sont pas restés très longtemps sur leur terre, puisqu'il y a eu l'exil rapidement. Par conséquent, il faut bien que cette promesse s'accomplisse. La promesse de Dieu doit s'accomplir. Par conséquent, il faut bien que cela soit réalisé. Combien de temps? Mais c'est dit. Ce sont les quatre mots cités par la Gemara. La Gemara, le Rav en question, a pris les quatre mots fondamentaux qui met à chemin à Moloretz. Afin que se prolongent vos jours et les jours de vos fils, etc., etc., sur la terre que Dieu a juré de leur donner. Combien de temps doit se prolonger vos jours? Qui met à chemin à Moloretz. Autant que les jours des cieux sur la terre. C'est-à-dire autant de temps que dure le monde. Autant de temps que le monde dure. Ça ne s'est jamais passé. Le monde dure depuis le début et les Hébreux ont été sur leur terre combien de temps? Je ne sais pas, je n'ai pas le chiffre en tête. Quelques siècles en tout, n'est-ce pas? Voilà. Puis il y a eu l'exil, le premier exil. Ensuite, il y a eu, après le deuxième exil, il y a eu une petite période d'autonomie. Enfin, tout cela ne fait pas autant de temps que dure l'histoire. Qui met à chemin l'Europe. Je vous signale tout à fait, entre parenthèses, pour ceux que ça intéresse, il y a un commentaire, c'est un autre niveau de lecture, mais on peut le rapporter, je crois, à notre sujet, comme les jours des cieux sur la terre, parce que c'est une formule difficile, n'est-ce pas? Les jours des cieux, du ciel, c'est quoi? C'est 1000 ans. Les jours du ciel, les cieux, c'est-à-dire les cieux. Hashomayim, shomayim lachem. Le reste, nous sommes livrés aux hommes, dit les psaumes. Les cieux appartiennent à Dieu, et la terre, j'ai donné à l'homme. Et les cieux, c'est quelque chose qui est de l'ordre de Dieu. Alors, n'est-ce pas? On veut arriver à un moment où les jours des cieux seront sur la terre, c'est-à-dire réussir à faire que le compute, que ce qui représente la réalité divine, soit sur terre. Comme dit souvent mon maître Shlita Rav Rotenberg, Nervioir, il dit souvent, on ne nous demande pas, la Torah ne demande pas l'homme de monter au ciel. Le but de l'histoire, le but de l'accomplissement par Israël de l'histoire juive, c'est de faire descendre le ciel sur la terre. Et pas l'inverse. Bon, là, je ne voudrais pas ouvrir une controverse judéo-chrétienne, n'est-ce pas? Mais effectivement, c'est tout à fait l'inverse, n'est-ce pas? On ne demande pas de monter au ciel. Donc, comme les jours, jusqu'au jour, pour arriver à ce que les jours des cieux soient sur la terre, je referme la parenthèse, mais vous voyez, c'était pour vous dire cette formulation très, très particulière, très peu cohérente, d'après la cohérence humaine, arbitraire, non biblique, pour dire l'éternité des temps, n'est-ce pas? Mais comme ce qui serait les jours du ciel sur terre. Vous comprenez, c'est-à-dire, donc, vraiment une époque messianique. Eh bien, le Rabbi Yehuda a parfaitement raison. Il a parfaitement raison, puisqu'il y a une promesse. Ça veut dire que la plénitude, puisqu'elle doit se faire dans la Terre Sainte, cette plénitude n'étant pas faite, il est donc normal que la compensation se fasse autant de temps qu'a duré l'histoire. Toute l'histoire a été une histoire de non-plénitude. Il faut donc qu'il y ait une histoire de plénitude. Le Maharal et le Maharshal, d'ailleurs, disent tous les deux qu'il faut considérer que c'est un monde différent. Vous vous souvenez du petit tableau que j'avais fait lundi, n'est-ce pas? Vous avez Olam Hazé, ce monde-ci, qui est une époque pour elle-même. C'est une époque, un monde historique pour lui-même. Et puis il y a le Mont Samashiach, qui est un monde pour lui-même. Et puis ensuite, il y a Olam Habo, qui est un monde pour lui-même. C'est-à-dire un univers, Olam. Par conséquent, et ça c'est le Maharshal qui dit beaucoup de finesse, il n'est pas pensable que le monde messianique, l'univers messianique, soit inférieur, soit plus court que le monde de la souffrance. Sinon, ce serait une injustice. Il faut donc au minimum que le monde messianique, le monde de la réalisation, soit au moins aussi long que le monde de la non-réalisation. Par conséquent, et puisque tant que dure l'histoire, c'est une histoire de préparation. Nous sommes dans un monde, dans l'histoire de Olam Hazeh, qui est une préparation pour atteindre le monde à venir. C'est le but. Donc il faut au moins que cette époque de transition, qui n'est pas encore le monde à venir, mais qui n'est plus ce monde-ci, qui est un monde pour lui-même, soit au moins aussi long que ce monde-ci. Donc, explication littérale, comme je vous l'ai montré, Rashi, ils ne sont pas restés sur la Terre suffisamment d'années, mais le principe de base, le principe général, est beaucoup plus fort. Il faut qu'il y ait la compensation, toujours, n'est-ce pas? Au moins, autant, puisqu'on nous parle de monde pour lui-même, c'est un autre monde, il faut qu'il soit au moins aussi long que le premier. Rabbi Nachman Bar Yitzchak a exactement le même principe, mais il est apparemment moins exigeant. Vous verrez simplement qu'il est très cohérent. Qu'est-ce qu'il dit? Qui met Noach ad Arshov, conformément au jour de Noé, jusqu'à maintenant, comme il est écrit, qui met Noach zos li asher nishbati. Alors là aussi, c'est le début d'un verset, je vais vous le lire. Il y a un verset où Isaïe rappelle que Dieu a fait une promesse. Qui met Noach zos li asher nishbati. Mais ça, c'est le début du verset, mais le verset continue. Mais avor mei noach oid al ho'oretz. Kei nishbati miktsof olayir umigor bor. Car les jours de Noé, ça c'est pour moi. Que j'ai juré de ne plus faire passer les eaux de Noé, le déluge, encore sur la terre. Autrement dit, car les jours de Noé, c'est Isaïe hein, qui parle, Zosli, ça c'est pour moi, ça c'est à moi, ça dépend de moi, ça m'appartient à moi. Alors qu'est-ce qui s'est passé? J'ai juré, vous savez, après le déluge, n'est-ce pas, il y rappelle que Dieu a juré qu'il n'y aura plus de déluge sur terre. Il n'y aura plus de déluge tant que dure le temps de l'histoire de ce monde-ci, de la Mazé. Or, Isaïe ajoute, eh bien, de même que j'ai juré de ne plus faire passer de déluge sur terre, Cain, de la même façon, j'ai juré de ne pas me mettre en colère contre toi, sauf au laïr, et de ne pas te réprimander, ni de hors bord. Eh bien, quand est-ce que ça se passera? En ce moment, durant tout le temps de l'histoire que nous vivons, malheureusement, Dieu s'est mis souvent en colère contre nous, nous a souvent réprimandé. Cela ne peut avoir lieu, donc, la réalisation de cette promesse ne peut avoir lieu qu'à l'époque messianique. Ce sera justement l'époque de plénitude et qui sera celle où se réalisera. De la même façon que dans ce monde-ci, Dieu a cessé de faire peser la menace du déluge. Ras de Shalom, une bombe atomique est possible. Mais un déluge n'est plus possible, puisque Dieu a promis qu'il n'y aura plus de déluge. Il n'a pas promis qu'il n'y ait pas de bombe atomique. Il n'a pas promis que par le feu, il n'y aura plus de jugement. Mais par l'eau, il n'y aura plus de jugement par l'eau. Il n'y aura plus de déluge. Mais il a promis aussi qu'il y aura de la même façon. Or, ça a duré combien de temps, le non-déluge? Ça n'a pas commencé, la promesse du non-déluge, à la création du monde. Ça a commencé quand? Après le déluge. Autrement dit, la durée de la promesse du serment de Dieu part de Noé. À partir du moment où le déluge a eu lieu, il y a serment, il n'y aura plus jusqu'à la fin de Olam Hazeh. Autrement dit, le temps de référence du serment de Dieu de ne pas se mettre en colère contre Israël, ce temps de référence est représenté non plus par la durée depuis la création du monde, mais par la durée qui part du déluge qui va au Messie. Or, selon le même principe, Rabbi Nachman Bar Yitzchak, le même principe de Yehuda, que c'est un monde pour lui-même, le temps messianique, et que ce monde pour lui-même ne peut pas être plus court que le monde de référence, par conséquent, il faut qu'au moins l'époque messianique dure autant que de Noé jusqu'au déluge. Sinon, comme l'a dit Rabbi Yehuda, depuis la création du monde jusqu'à maintenant. Vous voyez, vous avez donc deux dates différentes, deux durées différentes, basées exactement sur le même principe. C'est clair. On peut s'arrêter là, je crois. Donc, des durées qui paraissent très très longues, mais qui sont bien là pour montrer que pour que la plénitude se réalise, il est nécessaire qu'il y ait des temps longs. Alors, nous avons donc là vu très rapidement les dix réponses. Nous avons vu donc qu'il y a une que ça répond donc à deux grands principes qui sont l'un que le Messie, la période messianique soit la plus courte possible, l'autre qu'elle corresponde à ce qui est dû comme compensation. Et donc vous voyez qu'il ne s'agit pas de petites histoires hein, pour amuser les enfants avant qu'ils s'endorment, mais qu'il s'agit vraiment d'une exigence de sérieux de la part des rabbins du Talmud, que Dieu ne s'amuse pas à jouer aux billes avec son monde, mais que si Dieu vraiment est sérieux, il faut également que les temps de l'époque messianique, ça soit sérieux. Vous voyez, l'époque messianique, ce n'est pas un mythe, ce n'est pas une vue de l'esprit, c'est pour la conscience juive une réalité à laquelle nous aspirons, et par conséquent, puisque c'est sérieux, et qu'on pense que ça se passera sérieusement, c'est comme ça, et pas autrement, qu'il faut l'envisager. Alors, deux choses pour terminer. Je vous ai promis, donc, je vous ai dit que nous avons étudié cela pendant 3 heures. On pourrait y passer 20 heures, bien entendu. Et pour vous montrer, effectivement, que toutes ces dix opinions pourraient chacune être étudiées plus en profondeur, en allant un peu plus loin que le pshat, enfin déjà avec le maral, on est allé un peu plus loin que le pshat, mais en allant beaucoup plus loin, je vous propose de prendre une qui est la plus difficile, peut-être, pour vous montrer que ce qu'on peut faire est la plus difficile, Calvachomer, fortiori, on pourrait le faire avec les autres plus faciles. C'est prendre l'opinion de Rabbi, la deuxième fois, lorsqu'il parle des 365 ans, et qu'il dit cette phrase mystérieuse, Rabbi dit 365 ans, selon le compute des jours du soleil. N'est-ce pas? Vous vous souvenez? Et qu'il y avait marqué, alors on nous expliquait, car un jour de vengeance dans mon cœur, et l'année, ma libération est venue. On a compris que pourquoi 335 ans. Mais le verset lui-même, lui, regardez, il est très précis, n'est-ce pas? Car un jour de vengeance dans mon cœur et une année, la libération va durer une année. Que l'année soit 365 ans ou 365, pour l'instant, oublions maintenant ce détail technique, le thème, l'année solaire. Et c'est précis. Vous avez remarqué que tout au long de ces lectures, et si vous reprenez les psaumes qui ont été cités par les différents rabbins, même dans la plus mauvaise traduction, la plus mauvaise trahison française de la Bible, vous pouvez lire, vous verrez que l'on parle continuellement de lune et de soleil. Même si la traduction ne vaut rien, le mot Yaréar sera traduit de toute façon par lune, et le mot Shamesh par soleil, n'est-ce pas? Donc ne vous attelez pas à lire le sens des versets des psaumes dans la traduction, parce que ça ne donnera rien, mais vous vérifierez qu'il est question sans arrêt de lune et de soleil pour parler chaque fois de David, lune ou du Messie soleil. Vous lirez chez vous le psaume 72, le psaume 89, le psaume 90, le psaume 15. En particulier, je vais vous lire en français, puisque il est tard, très rapidement, 3 versets. Psaume 72, verset 5. On l'a déjà lu. Ils te craindront avec le soleil et en présence de la lune. Une génération des générations. Verset 7, on ne l'a pas encore vu. Que le juste fleurisse dans ses jours. Que le juste fleurisse dans ses jours. Je vais dire ça en hébreu parce qu'il est important. Yifrar be yomor tzadik et une abondance de paix, de rov sholom, at be li yoreyar, jusqu'à ce que pas de lune, jusqu'à ce que plus de lune. Donc que le juste fleurisse dans ses jours et une abondance de paix jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de lune. Or, dans le même psaume, n'est-ce pas, où nous avons vu que le soleil c'est le Messie et la lune c'est David. Est-ce que je vais trop vite ou c'est clair? Le verset 17, c'est celui qui dit, toujours dans ce psaume prophétique, ce psaume messianique, pardon, 72, que son nom soit pour toujours, en présence du soleil, que se perpétue son nom. Dans le psaume 89, nous avons vu le verset 36, une fois que j'ai juré par ma sainteté, si à David, est-ce qu'à David je mentirai? Verset 37, sa descendance, sera pour toujours, et son trône comme le soleil en ma présence. Sa descendance. La descendance, c'est bien le Messie. Verset 38, comme la lune, il sera établi pour toujours. Non, comme la lune, il sera établi toujours. Pas marqué pour toujours, pas le Olam. Toujours, Olam, simplement. Donc, nous avons, dans le même psaume également, soleil, lune. Bien. Le Maharal rapporte un midrash que je vais donc essayer en 10 minutes pour conclure de vous présenter ici. Le Maharal nous dit la chose suivante. Lorsque Rabbi nous dit que l'époque messianique, l'époque du Messie, doit être de 365 jours, comme les jours du soleil, il veut dire par là que l'époque messianique, la délivrance, la Géoula, la finance finale que représente le Messie, doit être, par rapport à ce qu'a été la première délivrance, à ce qu'a été la première indépendance d'Israël à l'époque de David, comme le rapport qui existe entre le soleil et la lune. Je m'explique. La délivrance, la première délivrance, qui s'est traduite par la réalisation davidique du royaume de David et de ses descendants, Salomon, une génération de David, Salomon, Jéroboam, etc., a été de l'ordre de la lune, puisqu'on compare partout David à la lune. Le Messie est comparé au soleil. La délivrance finale doit être de l'ordre, du même ordre que celui qui est le rapport qui existe entre le soleil et la lune. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, voici le Midrash entièrement auquel se réfère le Maharal. Ce Midrash se trouve Ce Midrash se trouve dans Shemot Rabba 15-26. Apparemment, il se base sur un verset de l'Exode qui n'a rien à voir avec notre sujet. C'est une explication du verset 2 du chapitre 12 de l'Exode. C'est Dieu qui parle à Moïse avant la sortie d'Égypte. Ils sont encore en Égypte. Et Dieu parle à Moïse pour qu'il explique à Israël comment se préparer à sortir d'Égypte. Et le verset dit « Vayomer Hashem el Moshe les morts » Verset 1, Dieu dit à Moïse pour dire. Alors verset 2, Exode 12, 2 « Ha-choydesh hazeh lochem rosh prodoshim » Ce mois, chodesh, c'est un mois, lunaire. On parle de mois, c'est ça, vous savez que le calendrier est composé de mois lunaires. Ce mois, pour vous, Rosh Chodeshim, c'est la tête des mois. Rishonhu Lochem, le Chodesh Hashana, il sera pour vous la tête des mois de l'année. Effectivement, lorsque nous parlons de l'année, en général, nous parlons d'une année lunaire. Le même mot, Shono lui-même, année, a une valeur numérique de 355. 300 plus 50 plus 55, ce qui correspond effectivement à la durée des mois. Vous savez que les mois juifs sont autour de 12, sont autour de 29, autour de 30 jours, et donc ça fait un décompte de, ça fait un décompte de 325 qui se trouve même dans la structure du mot Shana, année. Mais ici, on précise bien 365 jours selon le compute du soleil, c'est-à-dire 365. Ils n'ont pas 355. Or, que dit le verset? On nous annonce Hachodesh Hazelochem. Alors voilà comment le Midrash explique. C'est ce qui est marqué dans le psaume 72:7. Yifrach le Yomor Tzadik, le juste, le Tzadik, fleurira le Yomor dans ses jours. Veror Sholom, il y aura abondance de paix, Ad Belioréa, jusqu'à ce qu'il n'y aura plus de soleil. Jusqu'à ce qu'il n'y aura plus de lune, pardon, excuse-moi. Ad Belioréa, jusqu'à ce qu'il n'y aura plus de lune. Je répète, le juste fleurira, et il y aura abondance de paix, jusqu'à ce qu'il n'y aura plus de lune. Alors, le Midrash lit tranquillement, Ad, alors avant même, je vous lis en français, je vous dirai que les versets très importants en hébreu, avant même que Dieu est sorti d'Israël d'Égypte, avec allusion, il leur a fait savoir chez Ein Hamalchus Bo'olohem Ad Shloshim Dor que le royaume ne durera que 30 générations. Chez Neymar, comme il est dit, Hachodesh Azelochem. Hachodesh Azel, ce mois-ci, ça sera pour vous. Ce qui est la durée d'un mois lunaire, ça fait pour vous. Ça et pas plus. Vous comprenez? Hachodesh Hazelochem. Écoutez, et entendez-le. Ce mois lunaire, c'est pour vous. Ça veut dire une durée de 30 jours, c'est pour vous. Continue. Hachodesh Shloshim Yom ou Malchus Shelochem Shloshim Dor. Un mois dure 30 jours. Votre royauté durera 30 générations. Et effectivement, le Midrash continue. La lune, le premier jour du mois de Nissan, puisque ça, ce verset se trouve et dit à Moïse le premier jour du mois de Nissan, qui est le premier des mois de l'année. C'est en Nissan que le roi est sorti d'Égypte, et donc ce verset se trouve en Nissan. La lune, le premier jour du mois de Nissan, elle commence à donner sa lumière. Et puis elle augmente, je vous résume, jusqu'à ce qu'on arrive au 15e jour et son disque est plein. À partir de là, sa lumière commence à baisser. Et au 30e jour, il n'y a plus de lumière, la lumière de la lune a disparu. Ce que je vous ai décrit, chacun d'entre vous peut le voir, n'est-ce pas ? Je ne vous apprends rien. Ce qui est extraordinaire, c'est la lecture par le Midrash du verset. Ce mois-ci sera pour vous. Voilà, ce qui sera pour vous, je vais le dire à l'envers. Ce qui sera pour vous, c'est à Chodesh Hazeh. Vous aurez, ça et pas plus. Alors, on comprend maintenant le verset des psaumes. Le juste, c'est dans le verset messianique, qui se rapporte d'abord à ce qui se passe avec David. Avec David, ça se passera jusqu'à ce qu'il n'y aura plus de lune. Jusqu'à ce que la lune aura cessé sa clarté, c'est-à-dire pendant une durée simplement de 30 générations, correspondant aux 30 jours du cycle lunaire. Le Midrash, très longuement, va nous montrer comment cela s'est fait. Et toute une série de versets, c'est-à-dire que pour fonder la cohérence, nous montre qu'Abraham est le premier dont les versets parlent comme de quelqu'un qui a amené la lumière dans le monde. Alors il y a des versets, bon, je vous en fais grâce, n'est-ce pas, qui montrent qu'Abraham est comparé à celui qui a amené la lumière dans le monde. Ceux qui s'intéressent, j'ai vu que photocopie des textes, je pourrais vous les donner, le livre du Midrash. Ensuite, on voit que Isaac, le deuxième, est également comparé à celui qui a ajouté la lumière au monde. Comme la lumière de la lune qui augmente. Et puis il y a ensuite Jacob, des versets qui sont cités. Et puis ensuite, on nous cite simplement des noms, Pérez, c'est-à-dire fils de Judas, Retson, Ram, Aminadav, Nabarouz, Salmon, Boaz, Ovet, Ishaï et David. Et cette liste, elle n'est pas arbitraire, c'est tout simplement le Midrash recopie, la liste qui se trouve dans Ruth, chapitre 4, versets 18 à 22, qui va de Pérez à David. Donc, il s'agit bien de la généalogie officielle biblique. Et nous arrivons à David, qui est le 14e, et d'ailleurs, là aussi, dans sa structure même du nom, David s'écrit, comme vous le savez, Dalet, Vav et Dalet, 4 plus 6, 10 et 4, 14, c'est-à-dire que David lui-même porte... Vous savez, on n'explique pas le fond d'une chose par la Gématria. La Gématria nous montre simplement, c'est qu'en hébreu, il n'y a pas de chiffres, les lettres sont en même temps des chiffres, nous montre que lorsque quelqu'un réalise ce qu'il devait faire, on retrouve jusque dans son nom la structure même de construction de son nom, la signification de ce qu'il est. Et donc dans David, qui a réalisé ce qu'il devait être, ça se trouve jusque dans sa structure de son nom, puisque David, c'est également chiffre 14. David, donc le 14e, c'est celui qui est presque arrivé au zénith, et le zénith, c'est Salomon. Alors nous avons ici, le Midrash nous cite le 15e roi, que Salomon, des textes qui sont difficiles à comprendre sans le Midrash, Salomon qui est comparé, la gloire de Salomon comparée à celle de Dieu, il était son trône, était au septième, comme Dieu était sur le septième ciel, etc., n'est-ce pas ? Il montre que Salomon était quelqu'un qui était au zénith de l'histoire humaine, si l'on peut dire, Kaviarol, comme Dieu est au zénith du monde céleste, n'est-ce pas ? Et donc Salomon représente bien cette réalisation de la lune qui est arrivée à son apogée. Et puis, qu'est-ce qui se passe après ? Eh bien, après les 15 générations, le Midrash continue à nous citer cette fois-ci la généalogie des fils de Salomon, prise en chronique, premier livre des chroniques, livre 3, versets 10 à 14, puis le verset 16. Et alors, on nous cite, je ne veux pas citer les rois, Rehoboam, Abias, etc. On arrive effectivement à un certain décompte. Mais si vous regardez, il y a deux rois de trop à la fin. Le dernier, le 30e, c'est Yochiyahu. Et Yehoyokim et Tzidkiyahu figurent, le Midrash les cite, mais ils sont le 31e et le 32e. Pourquoi? Parce que c'est au moment de Yochiyahu, le 30e, que a cessé l'indépendance d'Israël. Les deux rois suivants ont été des rois fantoches. Et qu'est-ce qui est arrivé à Tzidkiyahu, historiquement? Vous vous souvenez? Jérémie, chapitre 52, verset 11, et il arrache, aveugla les yeux de Tzidkiyahu. Le Midrash, d'ailleurs, le rapporte. Le Midrash le rapporte en disant Es Einei Tzidkiyahu Iver, il a aveuglé, Chosar Oro Shel Levono, la lumière de la lune était complètement éteinte. Vous avez suivi. Nous avons donc 15 générations de montée de la lune, de Abraham à Salomon, jusqu'à l'apogée du règne de la première libération. Et puis nous avons ensuite une période descendante qui se termine avec la 30e génération, le 32e roi, et celui qui va être emmené en déportation et à qui on crève les yeux. Vous avez donc véritablement, comment est-ce qu'on dit d'ailleurs, il y a une éclipse totale, une éclipse totale de la royauté. Vous voyez, l'image même en français peut s'appliquer, n'est-ce pas? Une éclipse totale de la royauté, puisqu'il n'y a plus, il n'y a plus de lieu. Eh bien, dit le Maharal, ce que, en citant ce Midrash, ce que Rabbi a voulu dire lorsqu'il nous a signalé que la libération future sera de 365 années, comme le compute solaire, ça veut dire que la libération sera une libération définitive, comme le soleil qui, lui, n'a pas de phase montante et descendante, mais qui dure toujours. Alors que la première libération, annoncée déjà avant même que sorte d'Égypte, avant même sortir d'Égypte, on nous annonce que la libération ne sera pas définitive. Vous savez d'ailleurs, par ailleurs, et hier chez Rayé, n'est-ce pas, que Dieu a annoncé qu'il y aurait d'autres exils après la sortie d'Égypte. Il l'a annoncé déjà avant même à Moïse, c'est donc parfaitement cohérent avec le récit biblique lui-même. Eh bien, ce Midrash tout à fait stupéfiant, mais parfaitement cohérent, comme vous voyez, nous explique en profondeur ce que représente la sagesse juive, et que si on veut étudier sérieusement les textes, voilà un petit exemple, simplement, d'un tout petit passage, selon, vous voyez cette précision qui nous semblerait peut-être complètement arbitraire, n'est-ce pas, selon le compu du soleil, ça veut dire, il faut que la libération définitive soit conforme au soleil, dans le même rapport que la lune par rapport au soleil, 30 générations, mais 365 années.
Enfin, pour terminer en deux mots, comment le Maharal lit, toujours dans le même verset, « À mon cœur, j'ai dévoilé, dit Rabbi Yochanan, à mes membres, je n'ai pas dévoilé. » Et Rabbi Shimon ben Lakish dit, « À mon cœur, j'ai dévoilé, aux anges de service, je n'ai pas dévoilé. » Le Maharal dit, attention, il ne faut pas lire le Talmud comme on pourrait le lire habituellement, et comme moi, au début, je voulais volontairement, bêtement, lui aussi, j'ai dévoilé à mon intérieur, mais pas à mon extérieur. Et Rabbi Shimon ben Lakish répond, non, il faut lire, j'ai dévoilé à mon cœur, mais pas aux anges. Je répète, si je peux dire. Le premier Rabbi Yochanan dit, ça veut dire, à mon cœur, j'ai dévoilé, à mes membres, j'ai pas dévoilé. Le deuxième dit, non, à mon cœur, j'ai dévoilé, aux anges, j'ai pas dévoilé. N'est-ce pas? Et alors, nous comprenons quoi? Le premier dit, j'ai dévoilé à mon cœur, mais pas dévoilé à mes membres. Et le deuxième dirait, j'ai dévoilé à mon cœur, j'ai pas dévoilé aux anges, ça veut dire non seulement j'ai pas dévoilé à mes membres, mais même j'allais plus loin, j'ai pas dévoilé. Alors le Maharal dit, attention, chas de shalom qu'il faut lire comme ça. Si je lis comme le premier rav, j'ai dévoilé à mon cœur, j'ai pas dévoilé à mes membres, c'est catastrophique. Il faut lire la réponse de l'autre rav, non. J'ai bien dévoilé à mon cœur et à mes membres, mais aux anges j'ai pas dévoilé. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Le Maharal t'explique. Donc le Maharal t'explique du point de vue de la Kabbalah. Le cœur, quand Dieu parle avec des termes humains, c'est pas du cœur, c'est-à-dire Dieu dans son essence. Les membres, comme nous utilisons les membres, tout à l'heure je parlais de la bouche, n'est-ce pas? Et le premier rapport que j'ai fait entre écrit et oral est parfaitement juste, n'est-ce pas? La bouche, les membres, c'est ce qui représente la façon dont nous agissons. Pour mettre en acte, pour actualiser ce qui n'est que potentiel, nous utilisons nos membres, notre corps. Eh bien, l'essence de Dieu est représentée par le cœur, et l'acte de Dieu est peulot, c'est-à-dire le fait d'intervenir dans l'histoire, le fait d'agir est représenté par le terme les membres. Donc si nous disions que le jour, Yom Nokom de Libye, le jour de vengeance, qui représente en même temps donc le jour de la venue messianique, n'est-ce pas? C'est clair. Si nous disons que c'est dans le cœur de Dieu, mais que ça ne se trouve pas dans les midot, les attributs de Dieu, c'est la façon dont Dieu agit dans le monde, justice, miséricorde, tout ce qui représente les modalités d'action de Dieu dans le monde, la façon dont Dieu réalise sa volonté dans le monde, la façon dont il agit, comme nous par les membres. Si nous disions cela, ça serait catastrophique, ça voudrait dire que la venue du Messie, la fin des temps, est tellement cachée qu'elle dépend uniquement de l'essence de Dieu, mais pas de ses midot, pas de sa miséricorde, pas de sa justice, etc. Donc, ce que le deuxième rab répond, c'est dire non, ne lis pas qu'il n'a pas donné aux membres, mais qu'il n'a pas donné aux anges, vous comprenez? Le premier dit, c'est dans mon cœur, mais ce n'est pas dans les membres. La réponse, c'est dans mon cœur, mais ce n'est pas dans les anges. Ange, c'est pour annuler membres. Vous comprenez ce que je veux dire? Ne dis pas, j'ai dévoilé mon cœur et je n'ai pas dévoilé aux membres. Dis, j'ai dévoilé au cœur, je n'ai pas dévoilé aux anges. Ange est pour supprimer membres. Vous comprenez? Et qu'est-ce que ça veut dire pas aux anges? Ça veut dire, dans la cohérence du Maharal, que c'est Dieu lui-même qui délivrera Israël, et ça ne se passera pas par l'intérieur des anges. Alors les anges n'ont pas besoin de savoir quand sera la fin, parce que ce n'est pas eux. Les anges représentent aussi une modalité d'action de Dieu, comme je vous l'ai dit tout à l'heure très rapidement, que c'est l'émanation de la volonté de Dieu. Mais que ce n'est pas par cette émanation haute, comme, voyez-vous, ce que l'on dit à Pessah, pendant la Gada, « Anivolo Malach ». Vous vous souvenez de la sortie d'Égypte? C'est moi et pas un ange. « Anivolo Saraf », c'est moi et pas un séraphin. « Ani Hachem », c'est moi, Dieu, moi-même qui vous délivrerai. De la même façon que le Maharal, c'est Dieu lui-même qui délivrera par ses actions. Ce qui veut dire que, en fin de compte, là, le jour, le moment de la vie messianique dépend de l'homme